en direct de Washington, édition spéciale du Monde aujourd'hui avec Eric Manirakis.
Bonsoir à tous et bienvenue sur VOA Afrique, jour historique aux États-Unis. Joe Biden et Kamala Harris ont prêté serment peu avant midi au Capitole devant le vice-président sortant Mike Pence. Les ex-présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, mais en l'absence de Donald Trump.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I take this obligation freely.
That I take this obligation freely.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
That I will well and faithfully discharge.
That I will well and faithfully discharge.
The duties of the office on which I am about to enter.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help God.
Le démocrate Joe Biden a été donc investi 46e président des États-Unis. Il s'est adressé aux Américains après son serment. Bagasikua, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous avez suivi son discours inaugural. Qu'est-ce qu'il faut retenir?
Alors, dans son discours d'investiture, Joe Biden, comme Eric, il fallait s'y attendre, il s'est beaucoup appesanti sur le thème de l'unité nationale. Biden qui prend le pouvoir dans un contexte particulier, marqué notamment par la contestation de sa victoire et des manifestations violentes contre le Congrès le 6 janvier. Il a commencé donc par saluer le jour de l'Amérique, le jour de la démocratie. On écoute Biden.
Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause. La cause de la démocratie, du peuple. La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été écoutée. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. À cette heure-ci, mes amis, la démocratie a prévalu. Désormais, sur ce terrain sacré où nous nous tenons, il y a à peine quelques jours, la violence a cherché à ébranler les fondements même de la capitale. Nous nous réunissions comme une seule nation sous Dieu, indivisible, pour effectuer le transfert pacifique du pouvoir, comme nous l'avons fait pendant plus de deux siècles, alors que nous regardons vers l'avenir d'une manière uniquement américaine, actif, audacieux, optimiste et tourné vers la nation que nous savons que nous pouvons être et que nous devons être.
Il faut l'unité, a-t-il dit, pour gagner face aux défis de l'Amérique. Aujourd'hui, recommençons à nous écouter entre nous, respectons-nous les uns des autres. Voyons-nous, chaque désaccord ne doit pas être une cause pour la guerre totale. Et a dit donc Joe Biden, dans cette logique d'appel à l'unité, il a aussi lancé un appel à tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, à tous ceux qui ne nous ont pas supportés. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. Mais le désaccord ne doit pas entraîner la désunion. Je serai le président de tous les Américains. Je vais me battre pour ceux qui ne m'ont pas soutenu. comme pour ceux qui m'ont soutenu. Le nouveau chef de la Maison-Blanche a aussi évoqué la pandémie qui, a-t-il dit, a fait plus de victimes américaines que lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a invité ses compatriotes à mettre de côté la politique et faire un seul front face à cette pandémie. Et Biden a même demandé une minute de silence pour les victimes du COVID-19. Joe Biden a aussi promis de vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur, ce sont ses expressions, 2 semaines après les violences au Capitole. On voit surgir aujourd'hui l'extrémisme politique, le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur, a-t-il noté. Nous devons les affronter et nous allons les vaincre, s'est-il engagé. Eric ?
Merci pour toutes ces précisions. Le pape François a encouragé le président américain nouvellement investi Joe Biden à favoriser la réconciliation et la paix aux États-Unis et entre les peuples. Le pape espère que Joe Biden, deuxième président catholique de l'histoire des États-Unis après John Kennedy, sera guidé dans ses efforts pour favoriser la réconciliation et la paix aux États-Unis et entre les nations du monde afin de faire avancer le bien commun universel. Le premier ministre britannique Boris Johnson a félicité Joe Biden après son investiture comme président des États-Unis, se disant impatient de travailler avec lui. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé le nouveau président américain Joe Biden à renforcer l'alliance entre Israël et les États-Unis afin d'affronter des défis communs comme la menace de l'Iran. Les Palestiniens ont invité le président Biden à œuvrer à la création d'une Palestine indépendante. La Russie a déclaré espérer un travail plus constructif avec l'administration du nouveau président américain Joe Biden en vue de prolonger un important traité de désarmement New START qui expire le 5 février. Le premier ministre irlandais Michael Martin a félicité Joe Biden, un vrai ami de l'Irlande, à l'occasion de la prestation de serment du 46e président des États-Unis en rappelant ses racines irlandaises. L'Union européenne, l'Europe est prête pour un nouveau départ, a tweeté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après donc l'investiture de Joe Biden. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a estimé qu'il était temps de revenir aux convictions, au bon sens et de moderniser notre relation après avoir lancé un appel à construire ensemble un pacte fondateur nouveau. Nous avons nos analystes en ligne. Edgar Colli, professeur à la retraite, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, je vous entends.
Rebonsoir, professeur.
Bonsoir.
Oui, vous venez de suivre les quelques réactions. Quelle est votre analyse?
Eh bien, comme certains l'ont déjà dit, le discours de Joe Biden se veut un discours unificateur. Nous avons vu ce qui s'est passé les 4 dernières années sous la présidence de Trump. Alors, Biden voulait marquer ici un changement, une rupture d'abord dans le ton et ensuite dans le fond, puisque comme il le dit, ensemble, en tant qu'Américains, il n'y a rien que nous puissions accomplir. Et donc c'est cette division qui, d'après lui, sans vraiment nommer le président Trump, qui a existé pendant ces 4 dernières années, cette division, nous devons aussi y travailler pour arriver à quelque chose qui semblerait à quelque chose qui ressemblerait à une unité, même s'il est conscient que cette unité, n'est-ce pas, ne se fera pas assez facilement. Mais il y a déjà, n'est-ce pas, cette volonté de tendre la main à ceux qui ont voté pour lui et surtout à ceux qui n'ont pas voté pour lui pour leur dire je serai le président de tous les Américains. Si cette administration réussit, toute l'Amérique va en bénéficier. Si cette administration ne réussit pas, toute l'Amérique va subir les conséquences.
Gardez la ligne, professeur. Je reviendrai vers vous au cours de cette édition. Dame Babou, vous nous entendez? Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Dakar, vous avez bien suivi cette investiture du président Joe Biden. Quelques réactions autour de vous?
Ouais, les réactions que j'ai reçues, notamment au niveau des débats télévisés, etc., c'est que c'est comme si un peu c'était une élection au Sénégal. Et le candidat le plus populaire a été élu. C'est d'abord ça. Ensuite, ce qu'on a retenu, c'est que le discours de Joe Biden, c'est à l'image de sa campagne électorale, il est resté sur les fondamentaux. Parce qu'il y a des périodes historiques où on n'a pas beaucoup d'objectifs à poursuivre parce qu'il y a deux ou trois objectifs principaux qui entraîneront tout le reste. C'est-à-dire que ramener l'Amérique à se souvenir qu'elle est une et indivisible, c'était l'axe principal comme tel que j'ai perçu le discours de Joe Biden. L'autre axe, c'était qu'il y a la détermination. Comme le professeur vient de le dire, Joe Biden a rappelé à l'Amérique qu'il n'y a pas de tâche que l'Amérique ne puisse pas accomplir. Mais en même temps, il fait pratiquement un avertissement en disant qu'il y a certes l'espoir, il y a la détermination, mais les événements qui viennent de se passer nous ont montré que la démocratie est un arbre qu'il faut absolument arroser tous les jours, que rien n'est définitif, aucun acquis n'est définitif, même après deux siècles et quelques, on a failli passer à une situation qui fasse peur. Maintenant, le dernier point que je voulais remarquer, c'est sur le plan international. Joe Biden a rappelé qu'en Amérique, en général, la politique extérieure s'arrêtait à la frontière du pays. Qu'on est revenu à une Amérique qui est prête probablement à jouer son rôle de leader dans le monde, mais qui ne pourra pas accomplir la tâche de développer les autres nations, mais surtout que revenir à une situation normale. C'est déjà extrêmement important, c'est une tâche énorme. Revenir à la normale, ça peut être simple en termes de phrase, mais la réalité d'Amérique aujourd'hui, c'est que revenir à la normale, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Gardez la ligne Dame Babou. Nous avons également Mohamed Mbodj. Vous êtes historien. Joe Biden, dans son discours, il prend la mesure de la tâche qu'il attend. Ça a été d'ailleurs la même chose lors de l'investiture de ses prédécesseurs. Qu'est-ce qui le distingue des autres?
Ce qui le distingue des autres, c'est qu'en fait, il semble être un peu plus pragmatique. Il semble avoir déjà un programme qui n'est pas fondamentalement le programme électoral, en tout cas limité au programme électoral, mais plutôt à une sorte de renaissance de l'Amérique qui finalement s'était retirée du jeu politique mondial, qui a subi des échecs économiques, en particulier avec le développement de la Chine, et qui aussi a eu ce qu'on peut appeler des soubresauts par rapport à l'unité de la population américaine, et en particulier illustrée par les événements du 6 janvier. Donc, il a déjà un programme établi, et si l'on en croit les sources, il a déjà décidé que chaque jour du mois de janvier sera consacré à un problème différent, de façon à ce que peut-être son agenda ou son énergie ne soit récupéré simplement par deux ou trois actions. Il semble dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et je vais essayer de les faire toutes. Et ça, c'est nouveau, parce que la plupart du temps, les présidents américains, disons, dégageaient des lignes fortes de deux ou trois choses à faire et s'en tenaient là, en particulier dans le discours d'investiture. Et Biden semble un peu s'écarter de cette ligne.
Ne quittez pas, professeur Mohamed, nous avons encore quelques réactions. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de l'Alliance transatlantique, a estimé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Le président allemand, Frank-Walter, a fait part de son grand soulagement. Nous nous réjouissons que les États-Unis, en tant que partenaire indispensable, soient à l'avenir de nouveau à nos côtés sur de nombreuses questions dans le combat commun et solidaire contre la pandémie de COVID-19. COVID-19, la protection mondiale du climat sur les questions de sécurité, a-t-il détaillé. Le président français Emmanuel Macron a adressé ses meilleurs vœux de succès au nouveau président américain et salué sa décision de revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Le premier ministre italien Giuseppe Conte a adressé tous ses vœux de bon travail au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, saluant un grand jour pour la démocratie dont l'importance dépasse les frontières américaines. Le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est dit impatient de travailler avec le président Biden afin de chercher à rendre nos pays plus sécuritaires, plus prospères et plus résilients. Là, je cite le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses chaleureuses félicitations à Joe Biden. Il a indiqué qu'il attendait avec impatience de travailler avec lui pour renforcer le partenariat stratégique entre l'Inde et les États-Unis. Dame Babou, vous m'entendez? Vous avez suivi notamment le premier ministre italien qui parle de la démocratie qui dépasse les frontières américaines. Joe Biden a dit que ce jour symbolise la victoire de la démocratie qui a été mise à l'épreuve dans ce pays. Et en Afrique, notamment, on pense que les États-Unis n'ont plus de leçons à donner.
Non, je pense que ce serait une erreur. En tout cas, moi, je ne le prends pas comme ça. Je pense d'ailleurs que cette épreuve a donné encore des raisons aux États-Unis pour dire aux Africains comme les autres que les institutions renforcées, ce sont la garantie, la seule garantie pour une démocratie et pour un développement. Parce que imaginez si cette situation devait se passer en Afrique, un président en exercice qui va à des élections, qui prétend qu'on a truqué ces élections contre lui, qui ne peut même pas mobiliser deux policiers ou deux gendarmes ou deux militaires pour aller attaquer ses adversaires. Je pense que les Africains qui disent ça doivent reconnaître que dans beaucoup de pays d'Afrique, si cela s'était passé, aujourd'hui Biden serait en prison et probablement le Parti démocrate serait dissous et la loi Marshall serait proclamée. Et donc je pense que c'est au contraire, cette épreuve a encore montré que la démocratie américaine a des ressorts. Mais le monde entier doit en apprendre parce que ce n'est pas parce que les Américains sont plus intelligents que les autres, mais c'est parce que c'est une réalité différente, c'est une histoire différente. Les Africains qui disent ça, je crois que c'est toujours parmi nous, il y en a une minorité dans le continent et les responsables qui veulent toujours déléguer leurs responsabilités. Je peux me permettre de faire quelque chose parce que l'autre l'a déjà fait. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de l'Afrique de le poser sous ce rapport.
Mohamed Mbodji, est-ce que les États-Unis restent le modèle de démocratie dans le monde?
Je souscris avec ce que Dame vient de dire, que je salue en passant. Il a parfaitement raison. Au-delà un peu de l'ironie et des sourires qu'on a pu avoir avec cette sorte de pitrerie des partisans de Trump qui prétendaient donc détruire la démocratie américaine en prenant d'assaut le Capitole. Ce qui est certain, c'est que les institutions américaines restent solides, le respect de la loi reste solide, et que les personnes en particulier représentées par quelqu'un comme Mitch McConnell ou bien le vice-président Pence ne sont pas des hommes liches du président. Et pourtant, Pence a été élu sur le ticket, mais lorsqu'il a fallu prendre et faire des choix, il a choisi son camp, qui est le camp de la continuité démocratique, plutôt que de suivre son maître. Donc ça montre bien qu'en fait, il y a, et comme Dame l'a dit, des exemples à suivre. Et je suis persuadé que d'une façon générale, l'Amérique reste un tout petit peu un exemple, pas un tout petit peu, reste largement un exemple à suivre pour ceux qui pensent à la démocratie.
Oui, le vice-président sortant Mike Pence a dit qu'il a honoré sa prérogative constitutionnelle. Edgar Colley, quelles sont les difficultés que le président Joe Biden risque ou va rencontrer sur son chemin dans la mise en œuvre de sa politique?
Oui, cela commence d'abord par ce qui va se passer au niveau du Sénat. les démocrates ont un contrôle relativement mince du Sénat et donc toutes les lois qui pourraient être promulguées doivent obligatoirement, bien entendu, s'appuyer sur peut-être une partie des républicains. Parce que si nous arrivons à ce point mort où vous avez 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates, plus la vice-présidente qui va servir de tiebreaker, eh bien, ce serait trop juste. Et je crois que donc il faudrait, n'est-ce pas, que certains sénateurs républicains puissent appuyer les lois que Biden pourrait essayer de promulguer pour que cela donne l'image d'un consensus. Ensuite, le deuxième défi, nous sommes dans une pandémie, il faudrait donner confiance aux Américains que le vaccin qui a déjà commencé à être distribué, cela va continuer de façon beaucoup plus rapide pour que les gens puissent retourner, n'est-ce pas, à leurs activités normales. Et bien entendu, si on rouvre les business, cela pourrait peut-être soulager ceux qui ont perdu leurs emplois à cause de la pandémie. Donc vous avez ici deux défis fondamentaux qui doivent nécessairement passer par une forme de consensus. Biden à lui seul, son administration, les démocrates, doivent obligatoirement compter sur McConnell, qui est encore un homme très puissant, même s'il a perdu le contrôle du Sénat. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, une contribution d'une certaine partie des républicains est indispensable pour faire face à ces deux défis fondamentaux. L'économie, à travers, n'est-ce pas, un contrôle beaucoup plus serré de la pandémie, et bien entendu, la promulgation de certaines lois qui doivent, n'est-ce pas, sortir du camp Biden.
Mohamed, vous êtes historien. Chaque président essaie d'imprimer sa marque. Quelle est la marque que vous attendez de Biden au bout de ces 4 ans?
Je pense que Biden s'inscrit dans la tradition de Lyndon Johnson. Il y a des choses très frappantes. Son séjour au Sénat, après avoir été à la Chambre des représentants, etc., etc., et sa capacité de faire marcher les institutions. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre beaucoup d'énergie à ce que le consensus soit créé au niveau des institutions législatives pour lui permettre, et très rapidement, et sans attendre beaucoup, et c'est pourquoi d'ailleurs l'horizon de ces 100 jours qu'il annonce, que certains pensent que c'est une sorte de slogan, mais ça me rappelle beaucoup Lyndon Johnson, et je pense que la comparaison va commencer. En tout cas, en tant qu'historien, c'est certainement le président avec lequel je vais le comparer. Et tout le monde sait que l'Amérique moderne, en ce qui concerne les institutions de protection civile et sociale, l'élargissement de l'assiette de la couverture maladie, le respect du droit de vote et l'élargissement de ces droits-là aux Noirs, la nouvelle société que Johnson a appelée, reste fondamentalement la chose la plus importante qui soit arrivée dans la seconde partie du XXe siècle aux États-Unis. Et je crois que Biden va essayer de faire pareil. Et je crois qu'au niveau de l'égalité raciale, de l'égalité des opportunités économiques, de la réduction des inégalités sur le plan de la progression de la détérioration du climat, la restauration de la foi des gens dans ce qu'on peut appeler l'idéal américain, etc. Je pense que Biden, et le rajeunissement, parce que c'est quelque chose de très important, et le rajeunissement de l'élite politique américaine, je pense que Biden va certainement réussir de ce point de vue-là.
Dame Babou, on sait que Bill Clinton a mis en place l'AGOA. George Bush a créé le PIPFAR, programme pour le programme santé. Joe Biden, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour laisser quelque chose ou donner quelque chose aux Américains? Est-ce que sa décision de changer le leadership de l'USAID, qui est une organisation qui injecte beaucoup, qui investit beaucoup en Afrique et dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que c'est une volonté rassurante?
Vous voulez dire aux Africains, parce que vous avez donné aux Américains, je comprends que vous...
Aux Africains, c'est ça.
Voilà. Moi, je pense que l'Afrique, ce qu'elle peut tirer de la présidence de Joe Biden viendra plutôt à certaines grandes politiques multilatérales. Parce que là, ce n'est pas un, ce n'est pas un tête-à-tête entre l'Amérique et l'Afrique. Parce que du point de vue de l'économie, du point de vue du commerce international, du point de vue des intérêts des affaires en Amérique, l'Afrique représente encore un poids vraiment faible. Ça, c'est important, ça, c'est clair. Mais malgré tout, l'une des décisions phares qu'on attend de Joe Biden aura un impact particulier en Afrique, un impact profond, je le crois. C'est son investissement massif sur la lutte contre la détérioration du climat, les changements climatiques. Parce que l'Afrique aujourd'hui est peut-être la zone la moins polluante, mais la zone qui subit le plus les effets de, cette, de ces changements climatiques dans le mauvais sens. Donc je pense que l'Afrique pourra tirer énormément de choses là-dedans. Il y a aussi un autre secteur où je crois que Biden le veuille ou non, l'Amérique va renforcer sa coopération avec l'Afrique, parce que ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Afrique, mais c'est dans l'intérêt de l'Amérique. C'est le secteur des questions de sécurité. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'océan Indien, avec des pirates qui rendent la marine marchande très chère à cause des assurances et autres, si cela arrivait dans l'Atlantique et l'océan de Méditerranée, c'est toute l'économie occidentale qui sera étouffée. Donc sur ce plan-là, l'Afrique a un atout, il a un poids de négociation, il a une voix à faire entendre au lieu de le poser en termes d'aide venant de l'Occident et en particulier de l'Amérique, qui est le leader de cet Occident. Je pense que c'est des secteurs où il peut y avoir de véritables coopérations et un véritable impact sur le devenir du continent.
Merci, Dame Babou, pour votre contribution dans cette édition du Monde aujourd'hui. Merci également au professeur Edgar Colli. Un grand merci à Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattan College. Merci beaucoup pour vos analyses. Le président élu Joe Biden a prêté serment aujourd'hui comme le 46e président des États-Unis. Cette cérémonie a été suivie au Nigeria. Suivez le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba depuis Abuja.
L'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis suscite des réactions majoritairement positives sur le continent africain. Si au sommet de l'État nigérian, on espère du futur occupant de la Maison Blanche un plus grand engagement en matière de lutte contre le terrorisme, dans les rues de la capitale fédérale Abuja, les Nigérians sont unanimes sur leur attente de la nouvelle administration américaine.
I'm really happy and looking forward to this new beginning.
Je suis très contente et je reste confiante pour ce nouveau départ, particulièrement avec une dame comme la vice-présidente, Mme Kamala Harris. Je m'attends beaucoup à sa contribution. Je suis certaine qu'elle est la première, mais elle ne sera pas la dernière. Donc je suis fière de l'avenir des femmes et de ce que les femmes peuvent contribuer.
My expectation is that
Je m'attends à ce que la plupart des politiques non favorables aux musulmans, aux Africains et autres pays en voie de développement dans le monde initiées par Trump, par des décrets, soient aussi changées par des décrets du président élu Joe Biden.
Concernant les récents développements aux États-Unis après l'attaque contre le Capitole, on craint ici l'impact que cela pourrait avoir sur la jeune démocratie africaine et sur l'acceptation des résultats des prochaines élections sur le continent.
C'est un moment pour nous de comprendre que la démocratie s'installe dans le monde entier. Oui, certaines choses qui se passent en Afrique et dont on parle beaucoup dans les médias peuvent aussi se produire dans d'autres parties du monde. C'est tout ce que cela nous apprend. Donc, en tant qu'Africains, nous devons commencer à mieux parler de nous-mêmes parce que ces événements qui se passent en Afrique se déroulent aussi dans d'autres pays.
Trump avait ses forces et ses faiblesses et beaucoup étaient concentrés sur ça. Mais sur le plan mondial, Trump a fait du bien. Pour les Américains, beaucoup ont leur part dedans. Et pour l'Afrique, Joe Biden doit faire plus. L'annonce des interdictions de visa pour les ressortissants nigérians par l'administration Trump au début de l'année 2020 pour raison de sécurité, avait suscité de vives réactions de condamnation au Nigeria.
L'annonce des interdictions des visas pour les ressortissants nigériens par l'administration Trump au début de l'année 2020 pour raison de sécurité avait suscité de vives réactions de condamnation au Nigeria. Pour les quatre prochaines années de l'administration de Joe Biden, les Nigériens fatigués des effets négatifs de la crise dans le nord-est du pays souhaitent un rapprochement pour ramener la paix dans le pays. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
C'est la fin du Monde Aujourd'hui, édition spéciale sur l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, et sa vice-présidente, Kamala Harris. Restez à